Aujourd'hui, je vous invite à examiner avec moi le message du prophète Jérémie et sa portée pour notre temps. Nous avons été accoutumés à associer Jérémie avec les lamentations. Péjorativement, on parle de Jérémiade pour désigner des plaintes fréquentes et importunes. Il est vrai que Jérémie est un homme qui se lamente, qui gémit, qui pleure. Mais ce que l'on connaît mal, c'est le pourquoi des souffrances de cet homme, le sujet des lamentations de Jérémie. Jérémie entame son ministère vers l'année 626 avant Jésus-Christ. Le peuple d'Israël traverse alors la période la plus sombre peut-être de son histoire. On n'invoquait plus le nom de Jéhovah. On avait renversé ses autels. Le peuple s'était tourné vers d'autres dieux. Les commandements de Dieu avaient fait place aux commandements d'hommes. La religion et le gouvernement du peuple étaient pervertis. Et lorsque s'élevait la voix alarmée des prophètes de Dieu, on se moquait d'eux ouvertement. Comment endiguer ce flot de perversion? Comment arrêter les progrès de l'apostasie qui entraînait le peuple de plus en plus loin du seul vrai Dieu? Tel était le problème en face du prophète qui seul semble garder sa lucidité effarée en l'entrevoyant avec horreur, avec douleur, l'agonie d'une grande nation. Aussi le voit-on prier, exhorter, censurer, supplier, condamner, avertir, pleurer, se lamenter sur cette nation dont il prévoit la chute. Voici un des grands thèmes de son message, une de ses grandes supplications, dans laquelle il propose avec larmes le seul moyen d'éviter la catastrophe. Ainsi parle l'Éternel, « Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. » Ce cri d'alarme a traversé les siècles et a atteint notre temps, hélas, sans avoir vieilli. Il s'applique en effet aussi bien à nous qu'à l'Israël d'antan, car, comme Israël, nombreux sont ceux qui aujourd'hui s'écartent de la volonté divine révélée pour servir d'autres lois. Il faut le dire, non seulement Dieu et son Christ sont-ils exilés de notre société moderne au profit de dieux plus populaires, plus attrayants, tels que le plaisir, l'argent, la chance, mais les formes de religion qui demeurent sont surtout celles qui confondent commandement de Dieu avec commandement d'homme. Aujourd'hui encore, on peut, il faut parler d'apostasie. Apostasie ou déviation individuelle de l'homme qui peu à peu abandonne tout respect de Dieu pour verser dans le matérialisme. Et apostasie ou déviation collective des masses qui suivent aveuglément des religions faussées. Examinons les faits. La Bible présente deux formes de religion. Le judaïsme et le christianisme. Elles se trouvent exposées, respectivement, dans deux alliances ou deux contrats, plus connus sous l'appellation Ancien et Nouveau Testament. La figure centrale de l'Ancien Testament est incontestablement Moïse, tandis que le Nouveau Testament gravite autour de la personne de Jésus-Christ. L'apôtre Jean définit la différence fondamentale entre les deux testaments par ces mots « La loi a été donnée par Moïse », La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Quoique différentes, ces deux formes de religion ont une origine absolument divine. L'une avait un caractère national, la seconde a une portée internationale. L'une était strictement adaptée au peuple hébreu, la seconde s'adresse à tous les hommes, de toutes les nations, de toutes races et de toutes conditions. Par sa vie et par sa mort, Jésus a marqué la fin du régime de l'Ancienne Alliance, et le commencement d'une ère nouvelle qu'on appelle christianisme. Depuis la mort du Christ, les chrétiens ne regardent plus à Moïse pour adorer Dieu. Leur foi est désormais orientée par le Christ. Les chrétiens adorent le même Dieu que les Juifs, toutefois, non plus selon les prescriptions de Moïse, mais selon la loi de Christ. Ces différences fondamentales ne signifient pas qu'il y a conflit. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que Dieu ne change pas. C'est lui qui coordonne toute la révélation selon sa volonté. Autrefois, c'était aux Juifs, par l'intermédiaire de Moïse. De nos jours, c'est au monde entier, par Jésus-Christ, avec les modifications qu'impose une telle expansion. Aujourd'hui comme hier, sous le Nouveau Testament, comme sous l'Ancien, il exige l'obéissance et punit la désobéissance. Nous pouvons noter que pour l'apôtre Paul, les expressions « loi de Dieu » et « loi de Christ » sont synonymes. Nous savons que la révélation chrétienne ou loi de Christ n'est pas une abstraction. Elle peut se consulter et se méditer, comme les Juifs pouvaient consulter et méditer la loi de Moïse. Composée de 27 livres, rédigés par des hommes que Dieu a inspirés pour faire connaître au monde une fois pour toutes sa volonté, le Nouveau Testament constitue pour le chrétien à la fois l'histoire de la révélation de Dieu par Jésus-Christ et la loi de Dieu pour tous les hommes. Comme il est possible de respecter cette loi, il est aussi possible de s'en écarter. Mais revenons à Jérémie. En son temps, le peuple n'aurait dû connaître et respecter que la loi de Moïse, donnée par Dieu. Mais il s'en est écarté. Le peuple avait dévié sa foi. Les rites religieux qu'il pratiquait étaient étrangers à la loi de Moïse, à tel point que Dieu n'entendait même plus ses prières. Notons que le peuple n'avait pas abandonné tout esprit religieux ou toute forme de religion. L'apostasie ne prend jamais des apparences aussi franches. L'apparence pieuse et fervente était toujours là. La culpabilité d'Israël résidait surtout en ce que les dirigeants du peuple avaient pris des initiatives sacrilèges, en innovant, en altérant la loi, en ajoutant des préceptes humains au détriment des prescriptions divines qu'on retranchait. Peu à peu, l'idolâtrie s'était installée et le culte du vrai Dieu disparut. Il n'y a pas, hélas, que l'Antiquité qui peut revendiquer une telle situation religieuse. Il suffit de prêter attention, de sortir de l'apathie presque générale qui caractérise le christianisme moderne pour se rendre compte que le croyant du XXe siècle pratique des rites et accueille des doctrines que le Nouveau Testament ne connaît pas. Les hommes ont rédigé des credos, élaboré des catéchismes, observé des manuels et des disciplines qui ont peu à peu supplanté la parole de Dieu, formant ou déformant la foi populaire. On a vraiment l'impression que le Nouveau Testament est relégué au rang de simple relique que l'on consulte de temps en temps entre spécialistes comme référence, alors qu'il devrait constituer le document unifiant et dynamique du christianisme à l'exclusion de tout autre. N'est-il pas la parole de Dieu ? N'est-il pas la révélation de Dieu en Jésus-Christ ? N'est-il pas le fruit de l'inspiration de Dieu ? On entend dire assez régulièrement que le Nouveau Testament ne correspond qu'à de la semence. On parle de développement de la foi et du culte à partir de cette semence, comme si la foi et le culte des premiers chrétiens avaient été sous-développés ou infantiles. Pourtant, si je ne me trompe, ce sont bien les premiers chrétiens qui ont donné leur vie pour le Christ dans les arènes romaines. Accordons-leur au moins le bénéfice d'un développement spirituel satisfaisant, puisqu'il est allé jusqu'au martyre. Je me demande si l'on peut se développer davantage. Ne doutons pas non plus que le culte qu'ils rendaient à Dieu dans leurs assemblées, pour simple et dénué de cérémonie qu'il ait été, n'en était pas moins fervent, sincère et acceptable à Dieu. Alors, pourquoi vouloir à tout prix développer, évoluer, comme si un progrès était nécessaire sur ce chapitre-là, comme si ce que les apôtres avaient arrêté par leurs paroles nécessitait une charpente ou des fondations sous peine de ruine. Une étude comparative entre l'Église du 1er siècle et les formes que revêt le christianisme aujourd'hui nous permet de constater que ce développement dont on parle a affecté non seulement la structure gouvernementale de l'Église, mais aussi son culte et sa doctrine. Or, ce développement est tel qu'il ressemble à un véritable changement, dont on a peine à accepter la légitimité. Si un changement, un développement ou une évolution était nécessaire, qu'a donc voulu dire l'apôtre Jean lorsqu'il condamne celui qui va plus loin que la doctrine de Christ? Qu'a donc voulu dire l'apôtre Paul lorsqu'il déclare « Vous êtes sauvés par l'Évangile si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain » La lecture des lettres des apôtres ne donne certes pas l'impression que les premiers chrétiens n'avaient rien sur quoi fonder leur foi et la nourrir, qu'ils tâtonnaient et trébuchaient en attendant que les générations futures veuillent bien enrichir et fortifier l'œuvre chancelante des apôtres. Au contraire, les apôtres leur avaient transmis les données de la foi, une fois pour toutes, et leur langage laisse entendre que ce dépôt devait être conservé intact, respectueusement et précieusement, sous peine de déchoir de la foi, comme le laisse entendre cet avertissement de Paul, « Autrement, vous auriez cru en vain ». Or, il n'en a pas été ainsi. À ce dépôt apostolique, divin, se sont ajoutées des doctrines, des rites et des espérances totalement inconnues des apôtres et des premiers chrétiens. des dogmes et des pratiques dont Dieu n'est pas l'auteur et que l'on enseigne au nom de Dieu. Quelle raison invoque-t-on aujourd'hui pour justifier cette promotion d'œuvres humaines au même rang que les Écritures? Outre la théorie bien habile du développement dont nous venons de parler, on invoque aussi les traditions respectables qui se sont solidement installées. On parle de commodité dans le rite. Il est par exemple plus commode de baptiser un enfant par aspersion qu'un adulte par immersion. On invoque aussi parfois les exigences de la piété populaire. Mais quel cas fait-on de la volonté et de l'autorité de Dieu? C'est pourquoi le cri de Jérémie est un cri d'alarme pour notre temps. Demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, et marchez-y. Il faut revenir en arrière et retrouver l'harmonie avec Dieu par sa parole. Pour nous faire connaître sa volonté, Dieu s'est servi de son Christ et des apôtres. Désirons-nous aujourd'hui connaître le rapport authentique des paroles du Christ, l'activité des apôtres, leur message et leur convertis? Désirons-nous savoir quelle était la foi, la loi et le culte des premiers chrétiens, ainsi que le nom qu'ils portaient? Il suffit de consulter les évangiles et les épîtres, c'est-à-dire le Nouveau Testament. Si nous ne voulons pas puiser et nourrir notre foi à cette source-là, à quelle autre pouvons-nous boire qui soit plus pure, plus digne de confiance? Certes, on assiste de nos jours à quelques tentatives d'épuration, de mise à jour. Mais au fond, la substance de ce qui est reste inchangée, c'est-à-dire la doctrine ou le dogme. Et c'est la doctrine qui fait la religion. Elle se présentera peut-être désormais sous un emballage renouvelé, c'est tout. Ce dont nous avons besoin, ce sont des Jérémie qui tendront un doigt résolu et ferme dans la seule direction possible, vers la bonne voie, vers la porte étroite de la volonté de Dieu devant laquelle il faut laisser toutes les doctrines humaines. Ce qui compte avant tout, ce n'est pas d'adapter l'Évangile aux exigences du siècle. Dieu veut que les hommes de tous les siècles se soumettent aux exigences de l'Évangile. Il y a une énorme différence. Il faut retrouver le caractère nécessaire et suffisant des Écritures chrétiennes. Tout ce qui concerne la foi et l'exercice de la religion chrétienne en général doit reposer uniquement sur l'autorité des Écritures. Il faut apprendre à parler lorsque la Bible parle et à se taire lorsqu'elle se tait. La voix des hommes a trop longtemps étouffé la voix de Dieu. Il y a beaucoup à faire pour retrouver ces conditions, et peut-être trouverez-vous cette solution par trop simpliste, d'un ton excessif et assez irréalisable. Mais laissez-moi vous dire ceci. L'exemple de millions de personnes de par le monde prouve que cela est parfaitement réalisable. D'autre part, s'il y a sous le ciel une manière de plaire au Seigneur en respectant sa parole, ce ne peut être que celle-là. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, et marchez-y.